Bon, voilà. Mon nom est Laurent Pfister. Donc, je suis chercheur au Laxburg Institute of Science and Technology et aussi professeur affilié à l'Université de Luxembourg. Et de formation, je suis un géographe. Donc, j'ai fait des études en géographie physique à l'Université de Strasbourg. Et je me suis intéressé, en fait, dès mes travaux de thèse de doctorat, au changement du climat, à la variabilité du climat et surtout aux répercussions que cette variabilité et ce changement ont pu avoir par le passé, ont aujourd'hui et auront peut-être aussi, enfin même sûrement, dans le futur sur nos hydrosystèmes. Et donc, dans les 20 minutes qui vont suivre, donc je vais essayer de montrer par quelques exemples concrets qu'au fil des 20 ou 25 dernières années, on a déjà subi pas mal de changements, notamment au niveau de cette relation pluie-débit, donc la pluie qui est transformée en débit et qui peut occasionnellement générer des inondations, mais qui dit crue et inondation ne dit pas forcément toujours la même chose en fonction de la saison, en fonction de l'intensité des pluies, etc. Donc, on a déjà vu au cours de la présentation précédente donc, que voilà, il y a des tendances qui sont inquiétantes au niveau du climat à l'échelle mondiale. Vous voyez sur ce graphique, en fait, un gros souci qu'on a notamment en hydrologie et dans la prévision, la prédiction des crues, c'est qu'on a, de par les observations météorologiques et aussi de variations de hauteur d'eau dans les cours d'eau, on sait plus ou moins bien quelle a été la variabilité des conditions hydrométéorologiques, hydroclimatologiques de par le passé. Par exemple, au Luxembourg, on a des enregistrements de température depuis 1837. Par contre, des relevés de hauteur d'eau dans les cours d'eau ont été réalisés essentiellement à partir du début des années 50 et encore seulement une fois par jour. Donc, des systèmes automatisés, on connaît ça que depuis le milieu, on va dire, des années 90. Et tout ça, ça fait que les outils de prévision des crues et des inondations, qui sont basés sur notre compréhension du fonctionnement des hydrosystèmes, ben, en quelque sorte, ils ne reflètent que cette variabilité documentée. Donc, ce qu'on sait du fonctionnement des hydrosystèmes tels qu'on les a observés au cours des 30-40 dernières années. En tout cas, je parle du contexte luxembourgeois. Et cela rend évidemment très, très difficile d'estimer avec le plus de précision possible comment ces hydrosystèmes vont évoluer d'ici 20 ans, 50 ans ou une centaine d'années. Donc, la stationnarité, c'est le paradigme, on va dire, de base qui a été utilisé pour construire, entre guillemets, les outils de prévision des crues et inondations jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, depuis quelques années déjà, on sait que bah, ce paradigme, en fait, il a fallu le changer par celui de la non-stationnarité des hydrosystèmes. Donc, le monde change, les climats changent, l'occupation du sol change, et les outils de prévision qu'on a ne sont plus adaptés à ça. Donc, ça pose plein de problèmes au niveau de la gestion de nos hydrosystèmes. Juste quelques mots sur l'hydroclimatologie du Luxembourg. En fait, vous voyez sur ce graphique de janvier à décembre les apports pluviométriques, donc les quantités de pluie qui tombent. Vous voyez qu'il y a une certaine variabilité mois après mois, donc en fonction qu'on se trouve au sud ou au nord du pays, à l'est ou à l'ouest. Mais surtout, c'est qu'on n'a pas de saisonnalité très marquée. C'est ça l'information importante sur ce graphique. Et quand on compare ça avec l'évolution de l'évapotranspiration potentielle, donc ce qui est évaporé, ce qui est transpiré par la végétation, là, on a une très forte saisonnalité, essentiellement parce qu'en été, on a des températures beaucoup plus élevées qu'en hiver. Il y a un couvert végétal qui est actif, qui a besoin d'eau, qui pompe de l'eau. Et tout ça, ça fait qu'on a donc des pertes par évapotranspiration très importantes en été et beaucoup moins en hiver. Et cela fait que donc on a d'un côté les entrées dans le système, donc ça c'est la pluie, on a les sorties d'évapotranspiration et le bilan entre, en quelque sorte, la différence entre les deux fait qu'on a une très forte saisonnalité au niveau de l'écoulement des cours d'eau. Donc en hiver, on a tendance à avoir les rendements les plus élevés et en été, vers le mois d'août, mois de septembre, on a les niveaux d'eau les plus bas dans nos cours d'eau. Alors, pour comprendre en fait cette transformation pluie-débit, il faut s'intéresser à quelques fonction hydrologique fondamentale. Donc d'un côté, on a le système bassin versant qui va collecter l'eau de pluie. Vous voyez ici le réseau de petits ruisseaux, de petits chenaux qui vont se rejoindre et former des cours d'eau de plus en plus grands. On a une partie de cette eau qui va s'infiltrer, qui va séjourner pendant un certain laps de temps dans le sol, respectivement dans les aquifères plus profonds. Ça peut prendre des jours, des semaines, des années, voire même des décennies ou des millénaires. Donc c'est le temps de résidence moyen de l'eau. Et à un moment donné, donc cette eau, elle va réapparaître et elle va contribuer à l'écoulement. Vous voyez ici une petite crue dans un tout petit bassin versant forestier dans le nord du Luxembourg. Je ne vais pas pouvoir en parler en détail ici maintenant, mais il faut savoir que dans certains hydrosystèmes au Luxembourg, mais aussi par ailleurs dans le monde, quand il y a une crue comme celle-ci, jusqu'à 80 ou 90% de l'eau que vous trouvez au moment de la crue dans le cours d'eau est en fait de l'eau dite ancienne, donc qui a séjourné un certain temps dans le sol, dans les aquifères, et qui est en fait chassée par la nouvelle pluie entrante et qui est remplacée en fait dans l'hydrosystème par cette nouvelle pluie et qui quitte le bassin au niveau de l'exutoire. Donc les conditions d'humidité antécédentes, c'est quelque chose de très important si on veut comprendre la genèse des crues et des inondations. Alors ici, c'est un processus qui correspond un petit peu à ce qu'on va encore voir plus en détail d'ici quelques minutes. C'est en fait une crue qui est générée par des précipitations dont l'intensité est tellement importante qu'elle dépasse largement la capacité d'infiltration des sols. À l'opposé, de précipitations beaucoup plus, comment dire, moins intenses, mais par contre plus prolongées dans le temps, qui peuvent s'étaler sur des semaines, voire plusieurs semaines, et qui vont saturer par le bas en fait les sols et créer un écoulement en surface, en subsurface. En général, ceci, ce sont des épisodes très localisés, très brefs, très courts, très intenses, alors que ici, c'est une situation plus typique pour les mois hivernaux où il faut des semaines de pluie modérée pour saturer le système. Alors, le bilan hydrologique, encore une fois, pour résumer, vous voyez ici une séquence de quelques années d'observation de pluie dans un petit bassin versant au Luxembourg. Vous voyez la réponse du système au fil de ces années. Et quand vous faites la différence de ce qui rentre dans le système et de ce qui sort, c'est-à-dire le débit au niveau du cours d'eau, mais aussi les pertes par évapotranspiration, vous voyez qu'au fil des saisons, on a plus ou moins d'eau qui est stockée dans le système bassin versant. La géologie et la pédologie sont très importants. On a quelques bassins versants au Luxembourg qui sont équipés avec des stations météo, des limnies, justement en raison de leurs caractéristiques géologiques très marquées. Donc ils sont soit entièrement gréseux, marneux ou schisteux. Le grès, ça fonctionne comme une éponge gigantesque. En fait, il va absorber l'eau de pluie, il va l'emmagasiner pendant quelquefois des décennies et puis relarguer très très progressivement cette eau. C'est ce qu'on voit ici, le trait vert ici. Il n'y a presque pas de réponse aux apports pluviométriques. C'est une éponge qui accumule toute l'eau et la relâche progressivement. Alors que sur les marnes, c'est des réponses, vous voyez ici, très brutales, très brèves. Et qui ne dure en général que quelques heures ou quelques jours tout au plus. Et puis vous avez encore un fonctionnement un peu plus, comment dire, un peu plus particulier sur les schistes qui, eux, fonctionnent aussi comme une éponge, mais qui relarguent ensuite l'eau en l'espace de quelques semaines, on va dire, au mieux. Donc ça, c'est la réponse en hiver. En été, c'est encore plus marqué. On voit qu'au niveau du bassin gréseux, rien n'a changé. Comme je disais, c'est des éponges qui gardent l'eau pendant très très longtemps, qui les relâchent très très progressivement. Alors que par exemple sur les marnes, il n'y a pas de constitution de réserve souterraine. Et donc en été, on a très peu de débit de base, seulement quelquefois des apports pluviométriques importants localement qui peuvent générer des crues. Alors, ici, est-ce que vous pourriez juste lancer le petit film, s'il vous plaît ? Parce que moi, il me semble que je n'ai pas... Voilà. Donc ça, c'est typique pour ce qu'on a de manière plus ou moins répétée tous les 5-6 ans ici au Luxembourg. On a des débordements, c'est des pluies hivernales abondantes qui mènent à des débordements. Ici, c'est des images de la Moselle, mais on pourrait voir la même chose, par exemple, sur la Z. Ici aussi, si vous pourriez lancer le petit film. Voilà, donc ça, ce n'est pas une image du Luxembourg, c'est un film qui a été tourné en Autriche, mais c'est très parlant, surtout dans un contexte cru et clair. Donc en 2016 et en 2018, on a eu ce genre de phénomène ici au Luxembourg, donc c'est très très ponctuel et c'est très spectaculaire, c'est des apports pluviométriques très importants et qui peuvent générer localement vraiment des inondations catastrophiques. Et vous voyez déjà que donc, c'est très local et c'est très difficile à saisir avec un réseau d'observations météorologiques conventionnelles. Donc c'est vraiment les outils traditionnels, les outils de base d'observation des apports pluviométriques ne sont pas forcément adaptés à ce genre de situation. Encore un dernier petit film. Donc là, vous voyez en fait les conséquences de ce genre de précipitation. C'était en 2018. Dans le Mulhacal, on voit ici les dégâts qui ont été provoqués par ce genre de crue éclair. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire qu'on n'a jamais vu ça au Luxembourg, mais ce qui est quand même un petit peu inquiétant, c'est que là, ça fait à plusieurs reprises qu'on a eu ce genre d'épisode au cours des 3-4 dernières années. Et dans toutes les chroniques, au moins, qu'on a à notre disposition, on n'a pas eu trace de ce genre d'événement au cours des 50-60 dernières années. Alors, une petite analyse statistique, juste pour rapidement passer à travers les chroniques, sur 50-60 ans. Ici, on avait essayé d'observer, en fait, quelles étaient les tendances éventuelles au niveau des précipitations hivernales, et on s'est rendu compte que, donc en bleu sont représentées toutes les stations qui ont relevé des totaux pluviométriques, qu'il y a des tendances très nettes vers une augmentation des pluies hivernales. Donc quand c'est bleu foncé, c'est une augmentation. Enfin, c'est l'année en fait du changement et la taille du cercle représente en fait l'importance de la tendance, le degré de signification de la tendance. Pour l'été, vous voyez que le nombre de jours avec des précipitations supérieures à 50 mm par jour, on ne va pas jusqu'à dire qu'il y a une tendance très nette, mais on voit quand même que, surtout ces dernières années, on a eu des événements à répétition qui étaient vraiment exceptionnels. Et on va revenir dessus encore dans les minutes qui suivent. Au niveau de la production, donc la fonction hydrologique fondamentale de production de l'écoulement, sur cette chronique, environ 50 ans, on voit qu'au fil des années, on a eu des périodes où il y avait des précipitations plus ou moins abondantes et les cours d'eau ici, l'Alzette, a répondu à cette variabilité avec des débits plus ou moins importants, presque donc 1 sur 1, ça colle presque 1 sur 1. Après, quand on regarde de plus près les débits maximum observés, donc c'était des crues à large échelle qui couvraient des plaines alluviales complètes, c'était en fait essentiellement lié à un changement des flux atmosphériques. Donc quand il y avait beaucoup, des années avec beaucoup de journées avec flux atmosphériques d'ouest, on avait aussi de fortes chances à avoir une saturation complète du système et in fine aussi des inondations importantes. Mais c'était essentiellement le cas dans les années 90. Depuis, on n'a plus tellement eu des cas comme ça. Ce qu'on a observé ces dernières années, comme je disais, c'est qu'on a vraiment eu un changement au niveau des crues dites éclairs ou crues subites. Donc on en a observé quelques-unes ici sur cette station, on en a eu 3 en l'espace de 2 années. Et ça chamboule, comme vous le voyez ici, les ajustements statistiques. Jusqu'à maintenant, on pouvait considérer qu'une crue de période de retour de 10 ans pouvait être marquée par une montée de crue d'environ 40 cm en une demi-heure. Or, maintenant, il semblerait que ce soit presque le double, en fait, suite à ces événements. Donc, vous voyez qu'on a affaire à plein d'incertitudes. Donc, le défi, c'est, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a déjà vu tout à l'heure qu'on a des tendances au niveau des températures, au niveau des précipitations, qui sont quand même plus qu'inquiétantes, y compris pour le Luxembourg, et ça veut dire qu'on a des problèmes au niveau de la prévision. Vous avez vu les images spectaculaires d'Autriche tout à l'heure, donc ça correspond en fait à ce qu'on a sur la diapo ici à gauche. C'est des apports pluviométriques vraiment spectaculaires en quelques minutes qui peuvent saturer localement les sols et créer des inondations vraiment dévastatrices. Et c'est complètement à l'opposé de ce qu'on peut observer en hiver, où on a des grandes étendues qui sont arrosées pendant X jours et qui vont progressivement saturer par le bas le système et créer des inondations dans les grandes plaines alluviales. Donc c'est deux phénomènes complètement différents. Alors, les mécanismes qui sont en jeu, c'est un graphique un petit peu compliqué, mais quand même qui montre que la quantité d'eau qui est stockée dans le système est vraiment une variable très importante, tout comme la quantité de pluie maximale tombée et la pluie cumulée, ici, sur tout l'épisode, donc représentée par cette échelle de couleur. Et la taille des cercles représente en fait le débit maximal observé. Et les événements des étés 2016 et 2018 ont clairement été provoqués par des pluies exceptionnelles en termes d'intensité. Donc ce n'était pas des événements qui avaient été générés par une saturation lente, on va dire. Et là, on voit aussi tout le ruissellement de surface qui a été généré, des routes entières qui ont été balayées. Voilà. Alors il y a un gros défi. C'est la mesure des précipitations. Vous voyez sur ces cartes, en fait, pour 2018, les cumuls qui ont été observés en 1 heure, en 6 heures, en 24 heures. Et vous voyez les petits points bleus représentent les stations météorologiques qui sont utilisées pour observer les précipitations. Et juste pour prendre cet exemple-ci, on était juste en périphérie des endroits où il y avait les intensités de pluie les plus importantes. Et c'est vraiment ça le problème des réseaux traditionnels. Parce qu'en fait, ils sont basés sur des pluviaux. Vous avez peut-être déjà vu ces instruments qui couvrent une surface de 200 cm². Et si on a de la chance, on est en plein au milieu de l'événement. Si on n'a pas de chance, on est à 1 km ou même moins que ça et on n'observera rien du tout. Et donc, tout l'outil de prévision qui est derrière, le modèle de prévision, ne va pas pouvoir fonctionner proprement. Alors, il y a différents outils pour dépasser un petit peu ce problème. Mais c'est par exemple le radar météorologique. Le souci du radar météorologique, c'est qu'il donne une information spatialisée, mais par contre, à cause de la courbure de la Terre, donc plus on s'éloigne du radar, plus le faisceau il va regarder haut dans l'atmosphère et à partir d'une certaine distance, on va être aveugle, on ne va pas voir en fait le nuage et les précipitations générées par ce nuage. D'autres outils qui ont été essayés, y compris par nous-mêmes, avec des partenaires de la Poste Télécom, c'est d'utiliser des faisceaux en fait, de télécommunications, des téléphones portables, parce qu'en fait, ces antennes sont proches du sol, ne sont pas influencées par le problème de la courbure de la Terre, parce que ces antennes sont en général éloignées de quelques kilomètres seulement. Et quand il pleut, en fait, les gouttes de pluie vont atténuer le signal, les micro-ondes émises par les antennes, et on peut traduire ça en intensité de pluie. Mais il y a un problème, c'est que de plus en plus d'opérateurs maintenant travaillent avec d'autres techniques, y compris les fibres, et du coup, c'est une technologie qui malheureusement n'est plus utilisable pour la mesure des précipitations, en tout cas au Luxembourg. Ici, encore un dernier petit film, s'il vous plaît. Donc, juste pour vous montrer, c'est pas au Luxembourg, mais c'est juste pour vous montrer ce que ça peut générer, une crue éclair, une crue subite, donc suite à une pluie telle que vous l'avez vue tout à l'heure. Donc, c'est encore une fois un exemple dans les Alpes, en Suisse cette fois-ci. Et donc, vous pouvez vous imaginer un petit peu la même chose dans le Mulhatal, évidemment à une échelle plus petite parce que les intensités de pluie n'étaient pas les mêmes. Mais voilà aussi les défis auxquels auxquels il faut faire face pour mesurer un débit. Donc comment mesurer, on parle de bilan hydrologique, les entrées, les sorties, comment voulez-vous estimer C'est très 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 difficile. Et très difficile encore une fois aussi, justement à cause de ça, très difficile à prévoir. Donc, un gros souci, c'est que les outils de prévision actuels qui sont utilisés au Luxembourg ont été développés, premièrement avec cette hypothèse de base qu'on vit dans un système stationnaire, donc il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui évolue. Et en plus, c'est des outils qui sont qui ont été développés pour permettre la prévision des crues et des inondations hivernales, donc qui couvrent de larges étendues. La prévision de crues subites a gagné en intérêt. Juste, je vous montre ici, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez le nombre de publications qui sont sorties sur le sujet dans toute l'Europe et justement, en fait, aussi dans des pays de plus en plus nordiques. Vous voyez qu'il y a des pays comme les Pays-Bas, Belgique, la Pologne, qui apparaissent, alors que c'était avant des phénomènes qui étaient surtout observés en région méditerranéenne, pour ce qui est de l'Europe du moins. Donc ici au Luxembourg, on a maintenant un nouveau projet où on essaye justement aussi de tester un petit peu le potentiel de l'Internet of Things, c'est-à-dire qu'on va avoir des instruments à bas coût, qu'on pourrait installer un peu n'importe où au niveau du réseau hydrographique pour augmenter la densité du réseau d'observation, le rendre plus mobile quand on a des prévisions qui annoncent des événements dans tel ou tel secteur du pays, d'augmenter momentanément la densité du réseau d'observation, d'avoir ensuite un système de télétransmission de ces données en temps réel vers un outil de prévision des crues et des inondations. C'est pour l'instant encore au stade de prototype. Là, on vient tout juste de déployer en fait les instruments et on espère d'avoir d'ici un an ou deux, d'avoir des premiers résultats vraiment tangibles et concrets par rapport à ça. Juste pour dire que en fait, c'est les premiers efforts qui sont faits et qui sont nécessaires en fait pour justement faire face à ce nouveau aléa et au nouveau risque représenté par des crues éclairs, donc quelque chose qu'on ne connaissait pas avant et qu'il est vraiment urgent de s'en occuper. Juste quelques mots pour dire que, évidemment, ce n'est pas moi, c'est mes collègues, Audrey Duneau, justement, qui est en charge du projet avec la Poste pour la technique IoT, des doctorants, Judith Maya, Carol Tamez Melendez, ma collègue Nouria Martinez, qui justement s'intéresse plus aux sédiments qui sont charriés, parce que ça aussi, c'est de plus en plus un problème, des quantités de sol qui sont charriées par ces événements, plutôt en collaboration aussi avec l'Université de Luxembourg, un co-encadrement d'une doctorante réalisée avec Olivier Francis, et mon collègue Christophe Isler aussi, qui s'intéresse à cette thématique. Voilà, merci beaucoup.